Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Aujourd'hui, 11 octobre, c'est une date qu'il faudrait retenir dans notre esprit. Le 11 octobre, quand ça tombe pas un dimanche, on fête la maternité divine de la Vierge Marie. On a l'habitude d'apprendre le « Je vous salue Marie » et on dit la deuxième partie du « Je vous salue Marie » qui est une prière de l'Église, composée par l'Église. Le début, on connaît bien, c'est l'ange Gabriel, « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ça, c'est l'ange. Puis après, il y a Sainte Élisabeth. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et puis après, il y a l'Église. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mère de Dieu, c'est ce que l'Église a proclamé à Éphèse le 11 octobre 431, face à un évêque qui s'appelait Nestorius, et qui disait « On peut dire que Marie est mère du Christ, mais on ne peut pas dire qu'elle est mère de Dieu. » Parce que Jésus, pour Nestorius, c'est un homme, vraiment homme, mais il ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se faire homme, c'est pas raisonnable, c'est hallucinant. Donc en fait, Nestorius dit « On va appeler Marie mère du Christ, parce qu'elle a porté Jésus dans son ventre et puis elle a donner naissance à Jésus. Elle est vraiment la mère du Christ, la mère de Jésus. Mais Saint Cyril d'Alexandrie et tous les saints et toute l'Église lui a dit, à Nestorius, tu te trompes. Jésus, il est vraiment homme, mais il est aussi vraiment Dieu. C'est Dieu fait homme. Et donc, puisque Marie est la mère de Jésus et que Jésus est Dieu fait homme, elle est vraiment mère de Dieu. Théotokos, vraiment mère de Dieu. Et donc, quand on dit le « Je vous salue Marie », il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que on proclame Marie, Mère de Dieu, et on proclame le mystère de Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu. 11 octobre 431, Saint Cyril d'Alexandrie, face à Nestorius, à Éphèse. Mère de Dieu. Pour les plus grands. La parabole d'aujourd'hui de l'Évangile est fondamentale. Elle répond d'abord à ces deux premières petites questions fondamentales. Qui sera sauvé et à quelles conditions serons-nous sauvés? Ensuite, elle démontre, si c'était nécessaire, et c'est utile de s'en rendre compte, que Michel Polnareff n'est pas un grand théologien de l'Église catholique. Et enfin, qu'il y a des conditions à observer pour pouvoir communier au corps du Christ lors de la messe. Cette parabole nous explique donc tout d'abord que pour pouvoir rester au festin des noces de l'agneau immolé pour nos péchés, il faut avoir sur soi la robe nuptiale, le vêtement blanc. Les pères de l'Église, ces grands saints de l'Église naissante, nous disent que cette robe nuptiale, c'est la grâce de Dieu. Autrement dit, c'est la participation à la nature divine, nous dit saint Pierre dans sa deuxième épître, ou la participation à la charité, puisque la nature de Dieu, participation à la nature divine, la nature de Dieu, c'est d'être charité. Deus caritas est. Dieu est amour de charité. Ainsi, tout homme et toute femme qui seront revêtus de la robe de la grâce au moment de leur mort seront admis aux noces éternelles. Et inversement, tout homme et toute femme qui ne seront pas revêtus de la robe de la grâce au moment de leur mort ne seront pas admis aux noces éternelles, mais rejetés par leur faute et non par la faute de Dieu, dans les ténèbres extérieures, là où il y a des cris, des pleurs, des grincements de dents éternels. Il est bien évident que cette robe nuptiale est symbolisée dans le rite du baptême par le vêtement blanc qui est remis au petit bébé ou à l'adulte baptisé. Mais me direz-vous peut-être, si quelqu'un ne connaît pas le baptême et la foi chrétienne, cette personne est-elle automatiquement exclue du salut éternel et donc du banquet éternel? La réponse est non, pas automatiquement. À la suite du bienheureux pape Pie IX, notamment, le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont la possibilité de demander ce sacrement. Le baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont la possibilité de demander ce sacrement. Parce que le Christ est mort pour le salut de tous les hommes, peuvent aussi être sauvés sans le baptême d'eau, ceux qui sont morts à cause de la foi, c'est ce qu'on appelle le baptême du sang, mais aussi les catéchumènes, et de même ceux qui, sous la motion de la grâce, sans avoir la connaissance du Christ ni de l'Église, recherchent sincèrement Dieu et s'efforcent d'accomplir sa volonté, c'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Quant aux petits-enfants morts sans baptême, l'Église, dans sa liturgie, les confie avec confiance à la miséricorde de Dieu. Ainsi, tout homme qui, ignorant l'Évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît dans sa conscience, peut être sauvé. L'Église ne dit pas qu'il est sauvé, il peut être sauvé. Il est donc très clair que nous devons, nous, inviter toute personne humaine à demander le Saint baptême, afin que chaque personne puisse recevoir la robe de la grâce sanctifiante et ainsi devenir fils ou fille de Dieu, co-héritier ou co-héritière avec le Christ pour la vie éternelle. Et puisque l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle, l'Église est missionnaire par nature, par vocation divine, et aucun baptisé n'est dispensé d'être missionnaire, de proposer le baptême à ceux qui ne sont pas baptisés. Tout baptisé est envoyé par le Père éternel pour rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord par sa vie, mais aussi par ses paroles. Saint Paul s'écrit dans son épître aux Corinthiens, vous connaissez bien ce cri de Saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Oui, malheur aux chrétiens tout mous, tout tiède, qui n'annoncent pas l'Évangile. Malheur aux chrétiens dont la vie est un contre-témoignage vivant rendu à l'Évangile. Malheur aux chrétiens qui devient une occasion de scandale, de chute pour son prochain, au lieu de l'aider à s'approcher de Jésus, du baptême et donc du salut éternel. Nous devons donc être toujours revêtus de la robe baptismale et nous devons inviter notre prochain à la revêtir à son tour pour avoir le maximum de possibilités d'être sauvé. Voyons maintenant en quoi cette parabole montre que Michel Polnareff est peut-être un bon musicien, mais pas un bon théologien catholique. À la lumière de cette parabole, nous comprenons pourquoi Michel Polnareff a tort de dire qu'on ira tous au paradis. Nous irons au paradis si nous avons la robe nuptiale. C'est ce qu'il a oublié dans sa chanson. Toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, toutes les brebis, tous les bandits, qui auront la robe nuptiale, iront au paradis, nous sommes d'accord. Saint Dismas, le bon larron, était un bandit et il a demandé pardon avant de mourir sur la croix, à côté de notre Seigneur. Et notre Seigneur lui a donné la robe nuptiale en lui pardonnant ses péchés, en lui disant « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » De même, le pauvre Michel Polnareff a tort de chanter, et ça, vous ne l'avez pas en tête, parce que vous ne connaissez pas assez sa chanson, ce n'est pas grave d'ailleurs. Il dit « N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. » Il est évident que la couleur des flammes de l'enfer importe peu. Ce qui importe, c'est leur chaleur éternelle. La chaleur éternelle du remords, du ver de la conscience qui ronge le damné éternellement en lui rappelant sans cesse « C'est par ta faute que tu es séparé de Dieu pour toujours. Par ta faute, parce que tu as refusé jusqu'au bout la miséricorde de Dieu. » Le roi de la parabole d'aujourd'hui dit à l'homme qui n'était pas revêtu de la robe blanche « Mon ami, « comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Car le roi considère toujours cet homme comme son ami. Dieu continue à aimer l'homme pécheur, mais l'homme pécheur n'aime plus Dieu. C'est pourquoi il est dit dans la parabole « L'homme garda le silence. » Cet homme est conscient qu'il a perdu la robe nuptiale par sa faute et par conséquent qu'il n'a aucune excuse et qu'il ne peut pas rester dans la salle des noces. Il n'a rien à dire. C'est juste, il va sortir. C'est de sa faute. Donc, merci à Michel Polnareff de chanter, mais merci de ne pas prendre les paroles de sa chanson à la lettre comme paroles d'évangile. Enfin, voyons comment cette parabole s'applique au mystère eucharistique. Comme le dit très bien le livre de l'Apocalypse, « Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Tout le monde est invité, tout le monde est invité. Et comme l'enseigne encore le catéchisme de l'Église catholique, pour répondre à cette invitation, nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience. Et là, le catéchisme cite la première épître aux Corinthiens. Donc Saint Paul nous dit « Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, s'examine soi-même, fasse un examen de conscience et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps du Seigneur. » Ainsi, celui qui est conscient d'être en péché mortel, d'avoir un péché grave dans sa conscience, doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la Sainte Communion. Catéchisme de l'Église catholique, 1385. Aucune personne baptisée ne peut donc communier au corps et au sang du Seigneur, alors que cette personne sait qu'elle n'a plus la robe nuptiale de son baptême, la vie de la grâce dans son âme, à cause d'un ou de plusieurs péchés mortels qu'elle a commis et qui n'ont pas encore été pardonnés par le Seigneur dans le sacrement de pénitence. L'Église ne craint pas de demander cela par respect pour son époux, le Christ Seigneur. L'Église croit en la présence réelle du Christ en l'Eucharistie, elle entend la monition de saint Paul et elle en tire les conséquences qui s'imposent, même si ces conséquences peuvent paraître excessives, excluantes et, pour le dire avec un adjectif infamant d'aujourd'hui, discriminatoires, horribles. À en croire certains, l'Église ne devrait être qu'inclusive. Elle devrait admettre tout le monde à la Sainte Communion, ne pas demander de conditions d'accès, tout le monde est invité, tout le monde communie. Eh bien, dire cela, c'est méconnaître la parole de Dieu, mépriser l'épître de saint Paul, qui est dans la parole de Dieu, relativiser, voire nier la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, et tomber dans le relativisme et le laxisme le plus total. Notre Sainte Mère l'Église n'enseigne pas cela. Elle veille sur nos âmes comme une mère très aimante et sur le trésor de la présence réelle du Seigneur. Il faut bien entendu n'être ni scrupuleux, ni laxiste, et être capable de discerner si l'on est ou non en état de péché mortel. Mais il faut aussi rappeler cette condition d'accès à la Sainte Communion pour éviter au maximum les abus, voire les sacrilèges eucharistiques dirigés directement contre le Seigneur. Vous le voyez, mes bien chers frères, cette parabole est absolument fondamentale. Elle nous permet de connaître ce qu'il faut faire pour être admis aux noces éternelles de l'agneau immolé et ce qu'il faut penser de la chanson de Michel Polnareff et ce qu'il faut apporter comme condition et disposition essentielle de notre cœur au Seigneur avant de le recevoir dans la Sainte Communion. Alors méditons cette parabole et diffusons son message de salut autour de nous. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever, nous allons prier pour nos catéchumènes.